Bonjour Marion.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Avec à la une ce matin, Mariupol, à l'est de l'Ukraine, prochaine ville à tomber aux mains des Russes. Un cessez-le-feu vient d'être décrété pour faire évacuer les civils. Nous allons y revenir avec nos envoyés spéciaux après les autres titres, Marion.
Paris, Berlin, Rome, Varsovie, plusieurs rassemblements ce week-end encore partout dans le monde pour dénoncer cette guerre. Une mobilisation qui parvient jusqu'aux Ukrainiens. Vous entendrez l'émotion de Loury qui vit à Lviv. L'Ukraine, où la vie continue malgré les bombardements. Reportage dans une maternité auprès des nouveaux-nés de cette guerre. Dans ce journal également, la mobilisation des sportifs qui signent une tribune en faveur de la paix, mais aussi les associations qui anticipent les demandes d'aide à venir. Nouvelle collecte des Restos du Cœur ce week-end. À la fin de ce journal, le sport, les JO paralympiques de Pékin et le premier titre olympique pour le camp tricolore. Arthur Brochet en or sur la descente debout.
Et puis notre invité dans un instant, dans 20 minutes, ce sera le délégué général de la France Insoumise, le délégué général de la République En Marche, pardon, j'y suis, Stanislas Guérini.
France Inter.
Le jour se lève en Ukraine, le dixième depuis le début de l'invasion russe. Et la nuit a encore été marquée par des bombardements. Vanessa Descoureau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'une des envoyées spéciaux de France Inter en Ukraine et l'armée russe a une nouvelle cible, la ville de Mariupol à l'est du pays.
Oui, un cessez-le-feu vient juste d'être décrété pour évacuer des civils de cet enfer de Mariupol, 500 000 habitants. Le maire de la ville réclamait ce couloir humanitaire en quelque sorte pour également faire entrer des médicaments et de la nourriture à l'intérieur de sa ville. Le feu vert pour ces couloirs a été la seule avancée véritable obtenue lors de la dernière séance de pour parler cette semaine. Cela dit, il faut quand même encore attendre pour voir sur le terrain comment et si les engagements seront tenus et si les armes vont vraiment se taire autour de Mariupol, complètement asphyxiée par l'acharnement russe. 500 000 de personnes vivent donc sous blocus dans cette ville portuaire avec son accès très précieux sur la mer d'Azov. Et c'est bien évidemment ces atouts géographiques que convoite l'armée de Vladimir Poutine. Pour le reste du pays, Kiev subit toujours une attaque massive dans l'ouest de sa périphérie avec des quartiers d'habitation visés, des résidents de ces villes de banlieue que nous avons rencontrées hier qui fuient les bombes, hébétées, complètement sous le choc et certains même incapables de parler. Cette nuit, le président ukrainien a de nouveau posté une vidéo sur les réseaux sociaux. Il veut une nouvelle fois répondre à la propagande russe qui le disait encore partie de son pays. Volodymyr Zelensky s'est montré dans son bureau avec son chef de camp derrière lui, épuisé mais toujours là.
Vanessa Descoureau et Marc Garvenès à Kiev pour France Inter.
Et à Kiev justement, malgré la violence, la vie continue.
Comme dans cette maternité de la capitale qui pratique des accouchements dans un sous-sol anti-bombe. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux à Kiev, Omar Waman et Gilles Gallinaro.
La nuit dernière, trois explosions ont retenti près d'ici. Et les bébés se sont mis à hurler. Nous avons enregistré leurs cris à l'aide d'un téléphone.
Dans ce bunker mal éclairé, plusieurs futures mamans attendent seules. Kate, 30 ans, est arrivée au terme de sa grossesse.
Toute ma famille a fui en direction de l'ouest de l'Ukraine. J'ai refusé de les suivre car je ne voulais pas accoucher sur la route. Je suis inquiète. J'espère que cette maternité ne sera pas prise pour cible.
À ses côtés, Ilona s'attend à accoucher dans les prochains jours.
Vous parlez à votre bébé, qu'est-ce que vous lui dites ?
Oui, je lui dis que tout ira bien, que la guerre sera bientôt finie, que son père sera prochainement avec nous et qu'il nous ramènera à la maison.
Bogdan a tout juste 24 ans, c'est l'un des rares papas présents. Son fils, Kirill, est né il y a 2 jours.
Quand nous allons rentrer à la maison, je rejoindrai les autres volontaires pour défendre le pays.
Kirill a quelques jours à peine. Dans quelle Ukraine il va vivre ?
Il vivra dans une Ukraine en paix et indépendante.
Une Ukraine actuellement en guerre contre son voisin russe déterminé à la faire plier. Kiev, Gilles Gallinaro, Omar Waman, France Inter.
C'est un reportage à retrouver sur notre site franceinter.fr.
Et après les cloches des églises hier soir, la mobilisation contre la guerre en Ukraine intervient un peu partout dans le monde ce week-end.
À Paris, ce sera cet après-midi, place de la République, à partir de 15h, mais des rassemblements partout, dans toutes les capitales, Varsovie, Berlin, Vilnius, Rome. Écoutez, Louris, c'est un Ukrainien, il vit à Lviv, à l'ouest du pays. Depuis le début de l'offensive, il fait tout son possible pour soutenir la défense territoriale. Il vient de mettre sa fille de 7 ans à l'abri, à une cinquantaine de kilomètres de sa ville, pour qu'elle n'entende pas le bruit des bombes. Louris se prépare à vivre le pire et pour lui, ce soutien moral venu du monde entier est très important. Virginie Pironon a réussi à le contacter.
Le soutien moral a la même importance que le support matériel. Parce que là, ça donne l'espoir qu'on va vivre, qu'on va vaincre et qu'on peut lutter. C'est énorme. C'est même difficile de quantifier cet effet quand les gens ici voient qu'ils sont pas délaissés. C'est une chose essentielle parce que là, il y a pas grand chose qui nous reste. Soit on nous supporte, soit on est délaissé et personne ne peut dire comment ça va se terminer. Nous, on a notre armée qui résiste héroïquement. On a tout le peuple qui s'est consolidé, qui résiste, mais sans support des autres peuples du monde, on a beaucoup de chance d'être dans une situation très très dure.
Une nouvelle réunion d'urgence est prévue lundi au Conseil de sécurité de l'ONU. Elle sera exclusivement consacrée à l'aide humanitaire. Plus de 600 000 Ukrainiens ont déjà quitté leur pays. Dans ce contexte de tension, la Chine annonce augmenter son budget militaire de 7,1% cette année. C'est un peu plus que l'année dernière, qui était déjà de 6,8%. La Chine dispose du deuxième budget de défense mondiale, juste après les États-Unis. La Corée du Nord, elle, a tiré cette nuit au moins un projectile non identifié, un tir au large de sa côte est, selon l'état-major de la Corée du Sud, ce qui pourrait constituer le 9e essai de missile par Pyongyang depuis le début de l'année. Et malgré les sanctions internationale draconienne, un tir qui intervient à quelques jours de l'élection présidentielle en Corée du Sud.
La guerre qui mobilise également le monde du sport.
Rarement autant de grands noms du sport se sont mobilisés pour une même cause. Près d'une centaine d'athlètes des quatre coins de la planète signent une tribune en faveur de la paix en Ukraine. Parmi les signataires, le français Tony Estanguet, triple champion olympique de canoë et président du comité d'organisation des JO de Paris 2024. Il y a aussi l'ancien footballeur ivoirien Didier Drogba. Le texte a été publié hier sous l'égide de l'association Peace for Sport. L'objectif, Romain Berchet, est clairement de jouer un rôle pour lutter contre le conflit armé mené par la Russie.
Ces champions estiment qu'il existe, je cite, « une communauté mondiale de la paix par le sport qui doit prendre des initiatives concrètes ». Cela passe par exemple par un carton blanc, signe de paix, à brandir lors d'événements publics ou encore sur les réseaux sociaux pour interpeller. Dans ce texte, les signataires appellent également au dialogue et ils rappellent cette scène au derniers Jeux Olympiques de Pékin. C'était il y a quelques semaines, avant même le déclenchement de la guerre. Une accolade assez franche entre deux skieurs. Un Ukrainien, Oleksandr Obramenko, sacré champion olympique de saut acrobatique, et Ilya Bourov du comité olympique russe, deuxième sur cette finale. L'association Peace for Sport espère que cette mobilisation des grands sportifs internationaux ne faiblira pas. Chacun peut agir à son niveau, rappelle-t-elle dans cette tribune.
Et les associations sont aussi à la manœuvre. Plusieurs convois humanitaires sont en route vers les pays limitrophes de l'Ukraine. En France, certaines anticipent aussi. Les Restos du Cœur lancent un nouvel appel aux dons ce week-end. Entre la crise sanitaire, la hausse des produits de première nécessité et l'arrivée de réfugiés ukrainiens, les responsables de l'association s'attendent à plus de demandes. Vous pouvez déposer vos dons jusqu'à demain. Les bénévoles vous attendent à la sortie des supermarchés. C'est le cas à Marseille, Célestin Navarro, au Carrefour Grand Littoral.
J'ai acheté de la soupe et des pâtes.
Du riz, des gâteaux.
Deux boîtes de thon et un litre de lait.
Mohamed, lui, a donné des conserves et quelques produits d'hygiène. Il est très attaché au Resto du Cœur.
Oui, parce qu'un jour, j'avais besoin comme eux. Et là, c'est mon jour pour donner. Quand on trouve des gens qui ont besoin, on n'hésite pas. Hein.
Alors après être passé à la caisse du supermarché, il ramène ses dons à l'un des 25 bénévoles. Et parmi eux, Mounia, qui s'occupe de tout trier.
Au resto, ça fait 11 ans. Tout en travaillant, j'étais bénévole. Et après, quand j'étais à la retraite, ben, je suis bénévole à temps plein. J'aime le social. Il y en a qui ont besoin de parler. Avec le Covid, ça a été les étudiants, les personnes âgées à la retraite.
Avec des bénéficiaires de plus en plus nombreux, Nathalie, responsable des Restos du Cœur dans le 15e arrondissement de Marseille, espère faire le plein pour cette collecte.
Cette collecte, ben, ça nous permet d'offrir des repas pour l'été, puisque nous sommes ouverts toute l'année. Les restos, c'est un accueil inconditionnel. Quelle que soit la nationalité, nous aidons. tout le monde.
Tous les dons seront ensuite répartis dans les 46 lieux de distribution des Bouches-du-Rhône.
Un reportage France Bleu Provence. À l'échelle nationale, les Restos du Cœur espèrent récolter l'équivalent de 9 millions de repas.
À Paris, porte de Versailles, le salon de l'agriculture va fermer ses portes demain.
Et dans les allées, on se pose toujours la question, comment promouvoir le bio dans nos assiettes? La consommation du bio est en léger recul depuis l'année dernière, notamment dans la grande distribution. L'Agence nationale du bio vient de publier son baromètre annuel de la perception du bio par les Français. Et selon ce dernier, les Français ont une bonne image de l'agriculture biologique, mais ils ne comprennent pas toujours les avantages de ce mode de production, et notamment Célia Quiré pour la biodiversité.
Selon ce baromètre réalisé auprès de 2000 personnes, près d'un consommateur sur deux ne sait pas précisément ce qu'il y a derrière ce label bio. Absence de pesticides, respect du bien-être animal. Cet enjeu de connaissance est majeur pour Laure Verdeau de l'Agence nationale du bio.
On doit rappeler effectivement que l'agriculture biologique, c'est une production sans produits chimiques de synthèse, mais il y a le bien-être animal qui devient vraiment central dans la préoccupation des consommateurs. Du coup, c'est le moment où nous, il faut qu'on mette en avant l'agriculture biologique tout ce qu'on fait de bien pour le bien-être animal. Le fait qu'il soit au pré, qu'il soit nourri en bio, avec de l'alimentation locale, qui est souvent issue de la ferme.
De moins en moins de consommateurs disent être freinés par le prix, mais Philippe Camburet, le président de la Fédération nationale de l'agriculture biologique, estime que la multiplication des labels, comme le zéro résidu de pesticides, brouille le message.
Aujourd'hui, zéro résidu de pesticides sur un produit, ça ne va surtout pas dire qu'il n'y en a pas eu tout au long de la chaîne de production auparavant. On sait très bien qu'on a aujourd'hui beaucoup de captages d'eau potable qui sont fermés en France parce que l'eau n'est plus potable. Il faut qu'on garde bien en tête que c'est l'agriculture biologique qui répond à ces enjeux-là. Et on a commencé à avoir des effets vraiment positifs sur la qualité de l'eau, sur la biodiversité et ne nous arrêtons pas en si bon chemin.
Et justement, une campagne de communication d'€1 million sera lancée en mai pour promouvoir le bio.
Célia Quiré pour France Inter.
Et à 8h12, c'est l'heure des sports.
Bonjour Laetitia Bernard.
Bonjour.
Première Marseillaise aujourd'hui aux Jeux Paralympiques en ski alpin.
Pour Arthur Bauchet, celui qui était abonné aux médailles d'argent il y a 4 ans en Corée et maintenant sur la plus haute marche du podium, il a remporté la descente cette nuit.
Entendre la Marseillaise, tout le monde vient pour ça. On était 41 chez les... un peu moins chez les debout. Mais le truc c'est que toutes les personnes qui sont là-haut au départ... Quand tu t'élances dans cette descente, c'est ça que tu cherches, c'est la médaille d'or, il y en a qu'une. Donc c'était encore une belle bagarre aujourd'hui. Après, j'ai essayé, je me suis dit va vite. Et les coachs nous avaient dit la piste va vite. Du coup, ça passe.
La joie d'Arthur Bauchet, 21 ans seulement et nouveau champion paralympique de descente. Une autre médaille cette nuit dans le camp tricolore en ce premier jour de compétition aux Jeux paralympiques. C'est du bronze et toujours sur la descente, mais dans la catégorie des déficients visuels pour Yacine Deleplace et son guide Valentin Giraud-Moine. À noter que Marie Bauchet, que tout le monde attendait, a eu un incident matériel, un souci avec un de ses skis, mais on la retrouvera bien sûr sur toutes les autres épreuves du ski alpin.
C'est déjà pas mal pour une première journée. Et il y a du football aussi, Laetitia, avec au programme aujourd'hui une sacrée affiche en Ligue 1.
Oui, affiche au sommet, Nice le 3e qui reçoit le Paris Saint-Germain, leader du classement, s'il y avait besoin de le rappeler, pour le compte de la 27e journée. Et les Aiglons savent qu'ils peuvent tenter quelque chose ce soir parce qu'ils sont très en forme, Winnie Claret.
L'Allianz Riviera, plutôt connue pour ses tribunes à moitié remplies, n'échappe pas à la règle. Avec le PSG, on joue à guichet fermé, ce qui promet pour Alexandre Abonné niçois.
Je pense que ça va être incandescent. On espère peut-être qu'un peu le PSG aura la tête à Madrid 4 jours après. Quoi qu'il en soit, oui, ça fait partie des matchs très attendus à Nice au cours de la saison chaque année.
Le Paris Saint-Germain va-t-il préserver certains joueurs ce soir avant la Ligue des Champions et le 8e de finale retour au Real Madrid mercredi? Quoi qu'il en soit, tout prédit une victoire de Nice pour Eric, supporter du gym.
On a joué 2 fois contre Paris cette année. On les a battus en Coupe de France au pénalty. On a fait un match nul là-bas. Il n'y a pas Mbappé. Ça fait beaucoup de signaux favorables.
Le coach niçois Christophe Galtier se veut, lui, plus prudent.
Certes, on a joué 2 fois. On a fait 2 fois 0-0. Mais en 2 fois 95-96 minutes, on s'est créé 3 occasions et demie. C'est beaucoup trop peu pour battre Paris.
Pour gagner, il faudra être aussi solide en défense, mais beaucoup plus dangereux, selon l'entraîneur de l'OGC, avec un objectif, reprendre la 2e place de la Ligue 1 au rival marseillais et rester dans la course à l'Europe.
Match ce soir à 21h et un dernier mot de tennis. L'équipe de France n'est plus qu'à 1 point de la qualification pour les phases de poule. Les Français mènent 2-0 dans le barrage face à l'Équateur. Place au double cet après-midi pour peut-être le point décisif.
Laetitia Bernard, dans le journal de Marion Ferrer. Le temps de ce samedi.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Suivi préventif, entretien sur site ou en centre, Euromaster est au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Avec du soleil sur une grande moitié de la France, Jean-Michel Golinski.
La carte météo de la journée nous donne une France coupée en deux. Plus précisément, la ligne de partage se situe entre la Côte d'Opale, l'Île-de-France, le Limousin et les Pyrénées, avec à l'ouest un ciel nuageux, parfois quelques gouttes, du sud de la Garonne remontant vers la Haute-Normandie, et des brouillards matinaux sur le centre, le bassin parisien et les Hauts-de-France. Sur la moitié est, le soleil sera vaillant, sauf des Alpes du Sud à la Corse, où des ondées vont se développer avec un peu de neige à partir de 800 mètres. En fin de nuit, les températures sont négatives sous le ciel dégagé de la moitié est. En journée, les maximales vont s'orienter vers 10 degrés en moyenne sur la plupart des régions et entre 12 et 15 autour de la Méditerranée.
Jean-Michel Golinski, Météo France.